Oh, Radio U s'écoute aussi la nuit tout nue. Hein.
18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. On se retrouve en ce début de semaine, le week-end terminé mais on s'y croira encore. Alors pour vous réveiller et vous lancer pour la semaine, on vous propose en deuxième partie d'émission un reportage réalisé par Anton vendredi dernier. Au cinéma Les Studios était projeté le film d'Alaka Sanda, Coconut Head Generation. Cette projection a été suivie d'un débat avec le réalisateur lui-même. Anton est allé à sa rencontre pour discuter de son film, film documentaire réalisé au Nigeria au sein d'une Safe Place, un ciné-club dans l'université d'Ibadan. Mais pour commencer notre émission, nous recevons une rappeuse du paysage brestois, Djiria, qui nous présente son dernier single, Truc de ouf. Salut Djiria.
Bonjour.
Donc, on vient de le dire, donc ton tout dernier single avec un clip, Truc de ouf, qui est sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes.
C'est ça.
Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Ou alors, est-ce que tu te dis, ok, c'est le moment, je me lance ?
Alors, en fait, du coup, j'ai 21 ans et j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans, par rapport à plein de choses, besoin d'exprimer, d'extérioriser plusieurs choses. Et j'ai toujours aimé le rap, j'ai baigné dedans depuis que je suis très jeune. Et en fait, j'ai commencé à écrire. À un moment donné, j'ai fait une petite pause vers mes 18 ans. Et là, ça fait à peu près un an et demi que j'ai voulu vraiment m'y mettre dedans. Donc voilà, j'ai sorti mes deux premiers sons du coup sur les plateformes, j'ai réalisé mon premier clip du coup dernièrement et voilà, j'ai pu faire quelques scènes aussi et participer à quelques open mic, voilà.
Comment ça s'est passé ces débuts Est-ce que l'accueil était plutôt positif
Au début, oui. Après, c'est toujours le cas, franchement. Après, forcément, quand on est une fille dans ce domaine qui est quand même un domaine principalement masculin, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais globalement, j'ai toujours été entourée de très bonnes personnes, bienveillantes, toujours à fond derrière mes projets, sur mes scènes. Même, j'ai un très bon groupe d'amis qui me soutiennent bien, donc ça, c'est assez cool.
Est-ce que tu te souviens de ton premier texte ? Et si oui, dans quel contexte tu l'as rappé ?
Oui, je me souviens de mon tout premier freestyle. J'avais 16 ans, je l'ai écrit un soir. Je ne sais plus quand exactement, c'était, il me semble, pendant le confinement. Et en fait, il y avait le truc du rayon de 2 km à ne pas dépasser. Donc, j'ai capté une amie, elle m'a filmé, j'ai rappé, j'ai fait le freestyle, j'ai envoyé à des potes et ils ont bien aimé. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas plus tard vraiment me mettre dedans, quoi.
Et Djiria, donc, c'est ton nom d'artiste, d'où
c'est ça,
d'où est-ce que ça vient ?
En gros, Djiria, c'est en arabe, ça représente la force féminine, un symbole féminin, en gros, souvent utilisé au Maroc, tout ça.
Comment est-ce que tu décrirais du coup ton style de rap, donc ton morceau Truc de ouf, est plutôt de la trap, du kickage, et comment est-ce qu'en général tu te définirais ?
Je suis principalement axée sur du rap conscient, on va dire, basé sur de la boom bap. Mais en fait, je me suis rendu compte que les deux sons que j'ai sur les plateformes, c'est de la trap, parce que j'aime beaucoup kicker rapidement. Et vu que je suis vachement rapprochée aussi du domaine sportif, tout ce qui est très énergique, tout ça, je m'y rapproche beaucoup, donc voilà.
Et au niveau des prods, tu travailles avec quelqu'un pour produire
Non, pas encore. Les deux prods que j'ai pour les deux sons que j'ai sur les plateformes, je les ai achetés sur YouTube en exclusivité pour pouvoir après les diffuser sur les plateformes, tout ça.
Donc ça serait aussi un objectif
de trouver
quelqu'un avec...
Sur le prochain son, c'est mon but de travailler avec quelqu'un, ouais.
T'as déjà un peu des envies au niveau prod, des trucs que tu recherches ?
Ouais, rester sur de la trap, quelque chose d'assez énergique où je peux rapper assez rapidement dessus et puis transmettre une bonne énergie à mes auditeurs et même sur scène, transmettre beaucoup d'énergie aussi. J'aime beaucoup ça. Voilà.
Et au niveau de l'écriture, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'inspire, même que ce soit au niveau des artistes, la façon peut-être dont certains artistes écrivent ?
Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, pardon, c'est vrai. Au début, ça a été beaucoup Gizmo, Hugo TSR, et principalement, là, mon inspiration, c'est Doria. C'est une rappeuse féminine qui est en train de se faire connaître un peu partout. Et après, j'ai plein d'autres artistes, PLK, Nino, tout ça, mais c'est vraiment axé sur Gizmo, sur Doria, enfin, tous ces artistes-là, quoi.
Et en tant que, bah, du coup, en tant que rappeuse dans le monde bah, du rap et aussi peut-être spécifiquement dans le monde du rap brestois, qu'est-ce qui t'intéresse aussi de te faire ta place dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a des défis peut-être un petit peu
Ouais, bah en fait, je me dis, je trouve que c'est bien en tant que femme dans ce milieu-là de. En fait, les hommes, quand ils font du rap, ils transmettent un message qui touche autant que les femmes que les hommes. Mais je trouve que justement, en tant que femme, ça peut toucher encore plus un public féminin. Et je me dis, bon, même si ça touche un public masculin, j'imagine, mais je me dis, ça rajoute ce truc-là chez les nanas, en mode, on est là, on y va, go, on peut être en place et on peut montrer ce qu'on a dans le ventre aussi, quoi.
Est-ce qu'il y a des rappeuses, justement, qui portent un petit peu cet élan-là
Bah avant, c'était beaucoup Jams, Kenny Arcana, tout ça. Et bah, actuellement, c'est surtout, comme je vous ai dit, Doria qui m'inspire beaucoup et je suis vraiment axée sur son art à elle, quoi.
Je connais pas, peut-être que certains auditeurs connaissent pas aussi, et ça se décrirait comment un peu elle
Ça se décrit dans le mood vachement trap aussi, très axé sur le vécu, sur l'énergie, même au niveau de la voix, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de. Enfin, elle m'inspire sur plein d'axes, cette rappeuse-là.
Donc, en même temps que ton single, t'as sorti aussi ton clip.
Oui.
Et du coup, comment t'as. Penser un petit peu ce clip, parce que tu as une équipe aussi qui travaille avec toi.
Alors en fait, ça a été très compliqué par rapport à mon clip, parce que en fait, de base, je devais clipper avec un artiste parisien. Au final, le jour J, il n'est pas venu. Donc on s'est retrouvé un petit peu embêté. On était une quarantaine sur le projet. Il y avait mes potes, il y avait un photographe, tout ça. Donc au final, j'ai une amie qui m'a mis en relation avec un gars qui fait des clips sur Saint-Brieuc. Donc le jour même, il a bien voulu se déplacer. Il nous a vraiment bien dépanné. Et on a pu faire ce clip, donc il n'y avait aucun mood board avec ce garçon-là, parce que bah, c'était fait sur le moment. Mais bon, au final, ça s'est fait, je suis vraiment contente du résultat pour un premier, je me dis que ça va, donc voilà. Mais ouais, c'était assez tendu, mais ça l'a fait. Et j'étais vraiment contente, même tous mes potes étaient vraiment à fond derrière, beaucoup de gens investis, c'était vraiment cool.
Donc à l'avenir, t'aimerais aussi, c'est un truc que t'aimerais bosser aussi, les clips.
Ouais, carrément, même faire le montage, avoir moi-même la main dessus. Bon là, avec le garçon, j'avais comme la main dessus, mais bon, c'est lui qui a fait principalement le taf final. Mais je me dis que ouais, ce serait bien que même j'arrive à réaliser entièrement ce que je fais, quoi.
Et donc t'es venue aujourd'hui en nous préparant un morceau live.
C'est
donc
ça.
Tu vas nous faire truc de ouf, donc ton single. Donc quand tu veux, dès que t'es prête...
Je suis toujours prête.
Ok, bah let's go.
Péter le million, mais ne sont pas dans le thème. Pour oublier les problèmes, faudrait devenir alcoolique. Je trouve ça vraiment pathétique. Avant de faire de l'oseille, faut savoir prendre des risques. Vendre du shit à la cité, y'a rien de bien excitant. Pars et me dans la gueule, perché tu finiras seul. Je pousse les kills à la presse, pendant que tu donnes tes fesses. J'ai de l'amour à donner, mais aussi beaucoup de haine. Tu fais pas partie des miens, donc ne fais pas le malin. T'es mal au flow que j'impose, j'espère que t'auras ta dose. Jusqu'à atteindre l'overdose. Toi tu veux graille à ma table, mais j'ai déjà tout mangé. Toi t'es pas très agréable, je t'entends tout le temps aboyer. J't'invite à niquer ta mère et à redescendre sur terre. J'trouve ça vraiment aberrant de tous les voir faire semblant.
Truc de ouf, comment j'tue la prod? À chaque kick j'les bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. J'suis venu les étouffer. Truc de ouf, comment j'tue la prod? À chaque kick j'les bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. J'suis venu les étouffer. Truc de ouf, comment j'tue la prod? À chaque kick j'les bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. J'suis venu les étouffer. Truc de ouf, comment j'tue la prod? À chaque kick j'les bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. J'suis venu les étouffer.
Je suis pas une rappeuse hors norme, mais j'ai vécu d'un bonhomme. 4 ans que j'écris des textes, 4 ans que j'ai mon problème. 4 minutes noires. Bien net, pas une question dans la tête. C'est vrai, l'espoir fait briller, mais moi ça m'a fait briller. Dans le portefeuille, je veux les billets. Bélé Kato, on a cramé ton vice. Comme il dit là, tu fais que tourner dans le vide. On se connaît pas donc me fais pas la bise. Tu gazes sur un que faisant ton bise. Y'a ceux qui prennent les nouvelles et ceux qui prennent les infos. Arrête de nous faire la belle, on sait tous que t'es n'info. Je débarque en violence, je te mets 6-0 dans les deux manches. Ils sont en D1, on est en pré-national. Tu brilles pour un joint, tu n'es qu'un pré-maturé. Et 2 minutes 30 pour défoncer la prod. Et pour faire ça, même pas besoin de prod.
truc de ouf, comment je tue la prod. À chaque qui j'ai bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. Je suis venu les étouffer, comment je tue la prod. À chaque qui j'ai bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. Je suis venu les étouffer, truc de ouf, comment je tue la prod. À chaque qui j'ai bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. Truc de ouf, comment je tue la prod. À chaque qui j'ai bouffe, vos rappeurs ne sont plus à la mode. Je suis venu les étouffer.
Merci beaucoup, Jirian. Donc c'était truc de ouf, ton dernier single. Et est-ce que tu as déjà eu un petit peu des retours par rapport au clip et au single?
Ouais, j'ai eu des retours du coup de mon entourage. Aussi quelques personnes dans le domaine du rap. J'ai eu pour l'instant pas mal de retours positifs. Après, c'est un premier, donc je me dis la suite sera encore mieux, quoi.
Tu fais partie du collectif Women Want to Be Heard.
C'est ça.
Donc l'objectif, c'est d'accompagner les femmes pour se lancer dans l'univers du rap. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce projet? Est-ce qui t'a permis aussi en tant que rappeuse?
C'est grâce à ce projet-là que j'ai pu faire mes premières scènes et vraiment me mettre en confiance pour enregistrer, me mettre vraiment dedans. Et en fait, c'est ma deuxième année. Et j'ai été l'année dernière, c'est Létis qui encadre le collectif, qui m'a très très bien accompagnée. Et j'ai pu faire mes premières scènes avec ce collectif-là. Et puis, on a beaucoup d'aide au niveau de la prestance scénique, au niveau de plein de choses, même psychologiquement parlant, avant de monter sur une scène, ce qu'est être une artiste, tout ça. Donc c'est vraiment top comme accompagnement.
Ça se passe comment justement un petit peu
Du coup, on a un atelier un samedi sur deux. Cette année, il y a au Novo Max à Quimper et il y a l'espace Léo Ferré, du coup, la maison de quartier de Bellevue. Et dans tous ces ateliers, on a tout ce que je vous ai dit avant, du coup. Et franchement, c'est vraiment top.
Est-ce que du coup, ça permet vraiment, rien qu'à l'image du paysage brestois, de rendre le fait d'être rappeuse plus accessible
Comme le nom l'indique, c'est un boost camp en fait. C'est vraiment un truc qui permet de ça permet de vraiment nous booster et de se mettre dans le bain en fait. Et même j'encourage les nanas qui veulent se lancer dans la musique, j'encourage à rejoindre ce genre de collectif parce que vraiment ça donne vraiment de la force et ça met vraiment en confiance.
Est-ce que du coup là, t'as des projets à venir un petit peu là, qu'est-ce qui se projette pour toi ensuite
Pour l'instant, alors du coup au niveau de la scène, je vais faire une scène du coup vendredi soir avec d'autres rappeurs, rappeuses. En fait, c'est au soutien à l'espace Léo Ferré. On organise ça, l'entrée est à 5€ et ça va vraiment être une bonne soirée. Donc là, c'est la scène qui arrive, la grosse scène qui arrive entre guillemets, on peut dire ça. Et le lendemain, je ferai une scène aussi dans le hall de la Carène, vu qu'il y a le tremplin rappeuse. Et puis après, au niveau des projets, je suis en réflexion sur un prochain son. Donc travailler avec un beatmaker et faire un nouveau son un peu dans ce délire-là, que truc de ouf. Et puis aussi réaliser un nouveau clip aussi, s'il y a possibilité.
Merci beaucoup, Jiria, d'être
venue. Avec grand plaisir, merci beaucoup à vous.
Et on espère plein de belles choses pour toi dans l'avenir.
Merci beaucoup.
C'était Montanita avec Rest My Head sur Radio U. Vous êtes toujours dans C'est vous qui le dites. Et vendredi dernier, au cinéma Les Studios, était projeté le film d'Alain Cassanda, Coconut Head Generation. Cette projection a été suivie d'un débat avec le réalisateur lui-même. Antoine est allé à sa rencontre pour discuter de son film, un film documentaire réalisé au Nigeria au sein d'une safe place, pardon, un ciné-club dans l'université d'Ibadan.
Alors bonjour Alain Cassanda.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, réalisateur franco-congolais. Vos films sont projetés dans de nombreux festivals dans le monde entier. En 2023, votre film Coconut Head Generation remportera le grand prix au festival Cinéma du Réel. Votre film est projeté ce soir à Brest, au cinéma Les Studios, et sera suivi d'une discussion en votre présence. Alors, Coconut Head Generation, c'est le récit d'une jeune génération au Nigeria qui, dans une société patriarcale, conservatrice et peu démocratique, cherche à s'émanciper. Vous êtes donc allé à la rencontre de cette jeunesse que vous avez filmée, notamment lors des rencontres organisées par le ciné-club de l'université d'Ibadan, au sud-ouest du pays. Et vous avez été un membre actif de ce ciné-club. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce ciné-club, nous raconter votre envie de filmer, documenter cet espace où la discussion, le débat et les projections sans filtre étaient possibles?
Très bien, vous avez commencé par dire que le Nigeria était une société patriarcale et peu démocratique. Je pense qu'on peut aussi dire la même chose de la France. Donc en préambule, c'est important quand on regarde mon film de ne pas le voir comme une description d'un pays lointain, mais un miroir de notre société française également. Et on peut rajouter raciste pour la France, et comme dans beaucoup de sociétés. Donc en gros, les qualificatifs pour les autres s'appliquent souvent à nous-mêmes. En gros, moi j'ai vécu effectivement 4 ans au Nigeria, où j'ai rencontré ce groupe d'étudiants qui organise, parce que le ciné-club existe toujours aujourd'hui, tous les jeudis, des projections dans un petit amphithéâtre où qu'ils transforment en salle de cinéma et en espace autogéré qui fonctionne selon des règles assez simples, qui excluent toute captation du pouvoir par un petit groupe. Donc c'est vraiment une organisation horizontale où les responsabilités sont tournantes, et avec l'idée de créer un espace de parole libre autour du cinéma, mais pas que. Très souvent, les films servent de prétexte à discuter de beaucoup d'autres sujets qui les concernent eux en tant que jeunes, en tant que Nigériens, en tant que citoyens.
Qu'est-ce que justement représentait ce ciné-club pour vous? Parce que il me semble que vous avez même été, vous avez passé plusieurs années, vous avez même été à l'origine de ce ciné-club qui est justement plus qu'un ciné-club. Vous le dites, les projections sont presque un prétexte à la discussion.
Complètement, c'est ce que je trouve beau, en tout cas dans ce projet, ce film en fait, ce qu'il montre, c'est l'importance de créer du collectif. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le cinéma permet de rassembler les gens sur un temps donné autour d'une expérience commune qui ensuite peut être qui donne lieu à une évolution, et l'évolution en l'occurrence là c'est l'organisation d'un espace de parole, mais qui après devient performatif, c'est-à-dire que tous les jeunes, tous les étudiants qui sont dans ce ciné-club là à un moment donné se politisent au contact les uns des autres et participent tous à un mouvement social qui s'appelle NSARS, c'était en 2020, contre les violences policières et la malgouvernance, la corruption, et donc le ciné-club était aussi devenu un lieu de rassemblement, de ralliement aussi avant et après le mouvement.
Justement, vous avez commencé à le dire, quelle est la situation au Nigeria lorsque vous commencez à filmer? Il me semble que vous commencez à filmer en 2016.
Oui, très bien. Je commençais à filmer en 2016. Le film se termine en 2021. Et il est sorti en 2023. En tout cas, dans les festivals. Puis en salle, c'était en octobre 2024. Donc non, ce qui se passe en 2016, c'est simplement... au départ, je ne voulais pas faire un film. Je voulais simplement documenter cette expérience collective qui, pour moi, était inédite. De voir des gens comme ça dans un pays qui a une industrie cinématographique. Il y a des films qui sont produits au Nigeria, mais c'est souvent des films de divertissement, pas beaucoup d'espace pour un cinéma politique et un cinéma d'auteur, très très peu. Et donc du coup, créer un espace où on voit des films du monde entier et on rencontre des réalités très différentes, mais qui à chaque fois renvoient autrement à la réalité locale, ça me paraissait important à documenter. Et puis il y a eu ce mouvement social, l'ANSARS, en 2020, qui m'a amené à me dire que j'avais suffisamment de matériaux pour finalement raconter une trajectoire politique de ces étudiants-là, qui culmine avec leur mobilisation dans la rue contre la violence d'État. Et donc c'est vraiment ça mais ce qui est vraiment important, c'est se dire que cette mobilisation, évidemment, elle n'avait pas besoin du ciné-club pour exister, mais que ceux qui au sein du ciné-club y ont participé aussi parce qu'ils ont été politisés par cette instance-là. Et que finalement le lien entre le ciné-club et la société était évident, parce que toutes les problématiques, toutes les revendications posées pendant le mouvement social, en fait, étaient déjà discutées dans le ciné-club. Et c'est du coup, le film raconte un microcosme d'une société nigériane.
Qui est membre de ce ciné-club ? Est-ce qu'il est ouvert à tous ou est-ce qu'il est dédié aux étudiants ? Qui vient dans ce ciné-club ?
Alors, il est ouvert à tous. Les séances sont gratuites. Donc, il n'y a pas de barrière financière. Et c'est ouvert à tous, profs ou même des gens de l'extérieur. Mais dans la réalité, c'est quand même quasiment que des étudiants qui assistent. Il y a très peu de profs qui viennent. Un ou deux venaient au ciné-club, mais pas beaucoup plus. Et ceux qui participent sont vraiment des étudiants, éventuellement leurs amis de l'extérieur, mais c'est vraiment ceux qui font vraiment le sel du ciné-club, à la fois dans l'organisation des séances, ce sont les étudiants. Et du coup, les étudiants qui viennent de partout. C'est des étudiants qui viennent de différentes filières. Donc, il y a évidemment les sciences sociales, sociaux, philo, mais aussi des gens en agronomie, en biologie, en sciences dures, des architectes. Donc vraiment, c'est une fac très généraliste, Ibadan. Il y a plein de filières différentes. Et c'est aussi le lieu de réunion, de rassemblement de gens qui ne se croisent quasiment jamais parce qu'ils ont des emplois du temps très différents en général.
Le film s'appelle Coconut Head Generation. C'est un surnom qui est donné à la jeunesse au Nigeria. Qu'est-ce que signifie ce surnom et pourquoi vous l'avoir donné à votre film ?
Alors c'est plus qu'un surnom, c'est une insulte. En fait, ça désigne quelqu'un qui a la tête dure et creuse, comme une noix de coco. Et donc ce stigmate-là, les jeunes Nigériens se le sont approprié pour le retourner, en fait, contre la vieille génération qui accapare les leviers du pouvoir et justement clamer leur liberté de penser et leur intelligence et leur volonté de changer les choses à court terme. Malheureusement, en face, il y a une résistance qui est très forte, un État très autoritaire et qui n'hésite pas à recourir à la force et l'armée et la police tirent à balles réelles. C'est là que la différence avec les régimes semi-autoritaires dans lesquels on s'inscrit de plus en plus en Europe. La France n'est pas exempte. On a vu la répression du mouvement contre la réforme des retraites. La Braviem ne tirait pas à balles réelles. C'est la seule différence. Mais les gens ont été borgnés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Sainte-Soline, les secours ont même été bloqués pour pas atteindre les gens qui étaient blessés volontairement par la gendarmerie. Donc il y a vraiment, on est dans les régimes semi-autoritaires et de moins en moins démocratiques. Et donc en gros, pour moi, ce film-là, il faut le voir aussi comme une forme d'avertissement et en tout cas une forme de prémonition de ce qui est en train de se construire aussi ici. Et à plein de niveaux, il y a des passerelles à faire entre la précarité des étudiants au Nigeria. Elle est certainement plus grande que celle des étudiants françaises, mais c'est la même précarité. On n'a pas en France des gens, en fonction de leur milieu social, qui ont les moyens de suivre une scolarité normale. Ils doivent bosser à côté. Et donc, il y a un truc où il y a une reproduction de la violence de classe à tous les échelons. Et regarder ce film-là, avec ça en tête, ça permet de créer aussi un rapport d'égalité avec les étudiants nigérians et aussi changer et sortir du paradigme raciste qui consiste à dire que, tiens, les Noirs, les autres, inférieurs, et nous qui sommes citoyens de société civilisée. Non, on est les mêmes. On est tous pris dans un mouvement, dans une société capitaliste et qui nous enferme. Et donc c'est ça qu'il faut regarder et c'est de ça qu'on doit se libérer.
Quels sont les sujets qui sont discutés, débattus au sein de ce ciné-club, sujets qui potentiellement ne peuvent pas être, on peut pas en discuter forcément dans les lieux publics au Nigeria.
Alors, il y a une grande liberté d'expression au Nigeria quand même. Les gens s'expriment assez facilement, critiquent le gouvernement assez facilement. La presse, elle est comme partout, plus ou moins libre, parce qu'elle est aussi liée à des contraintes financières et à l'actionnariat. Donc la presse, comme en France, est très souvent privatisée. Et donc ce sont des intérêts privés puissants qui parfois dictent la ligne éditoriale, en tout cas dictent la limite de ce qu'on peut écrire ou pas. Donc en ce sens-là, il n'y a pas de fondamentale différence entre le Nigeria et la France, par exemple. Et c'est aussi ça que je raconte dans ce film-là, en réalité, c'est qu'on a en France une grande ignorance des réalités sociales et politiques de différents contextes africains, qu'on enferme toujours dans des stéréotypes. Et on connaît peut-être le Mali et la Côte d'Ivoire, mais le Mali n'est pas le Sénégal, qui n'est pas le Ghana, qui n'est pas le Nigeria, qui n'est pas l'Éthiopie. Donc l'Afrique est un continent avec tellement de différences culturelles, des réalités politiques et historiques très différentes qui font qu'on doit appréhender les contextes avec leurs propres spécificités. Et le Nigeria est un contexte que je connais mieux que d'autres. Et donc en gros, pour moi, les discussions qu'ont les étudiants dans le ciné-club ne sont pas très différentes des discussions qu'on peut avoir en France. En gros, c'est l'angoisse de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un master, une fois qu'on a une thèse, qu'est-ce qu'on fait derrière? Quelle chance on a trouvé du travail? Donc l'angoisse du chômage est là. Les questions aussi d'égalité de genre, les questions de féminisme sont aussi la question du patriarcat est abordée, et avec une approche vraiment virulente et nécessaire, importante, portée par des étudiantes. Donc il y a plein de, évidemment, la question de la corruption, la violence politique, elle est abordée, mais là je ne vais pas spoiler le film et raconter tout ce qu'on va y voir, mais en tout cas tout ça pour dire que les discussions que les étudiants ont au ciné-club d'Ibadan sont absolument pas différentes de celles qu'on peut avoir à Brest, à Paris, à Marseille, parce que voilà, ce sont des gens qui sont extrêmement connectés au monde et qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont les mêmes références culturelles, qui lisent les mêmes bouquins et qui ont les cadres scientifiques sont quasiment les mêmes aussi à la fac. Donc du coup, c'est vraiment, faut voir ce film-là comme étant un film qui nous montre d'une certaine manière la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis.
Qui nous concerne en fait complètement, quoi. Comment, selon vous, le cinéma, il peut devenir un moyen puissant d'expression, d'engagement? Et à titre plus personnel, quel regard vous portez sur le cinéma en tant que lieu de réflexion, mais aussi d'imaginaire?
Moi, le cinéma, c'est un médium qui, dans ma trajectoire de vie personnellement, m'a beaucoup construit, m'a parfois apaisé. Parce que me retrouver dans une salle de cinéma, dans l'obscurité, dans un environnement un peu comme ça, enveloppant, apaisant, où je suis complètement immergé dans un autre image, dans un autre environnement, dans un autre univers, du coup, ça me sort de ma réalité. Et pour parfois, et ça c'est le cas des bons films, pour mieux m'y renvoyer, en fait, avec enrichi d'autres perspectives. Et donc, du coup, c'est ce que je trouve important dans le cinéma, c'est la capacité à vraiment nous immerger dans un discours et des représentations autres que celle à laquelle on est parfois soumis, notamment dans les représentations médiatiques et les discours très violents médiatiques. On est en ce moment dans une vraie chasse, dans un mouvement, dans un moment pré-fasciste orchestré par les médias de Bolloré et Marine Le Pen contre une décision de justice parfaitement légitime de condamnation d'une personne qui a volé 4 millions d'euros. Et donc au lieu de démissionner, c'est la justice qui doit exploser. Et donc c'est la démocratie qui doit exploser. Et donc le cinéma permet de pouvoir créer des espaces comme ça où on peut se poser les bonnes questions et voir, réfléchir et se dire en quel monde on veut vivre. Et en plus, l'avantage, c'est que ça, c'est en collectif. On ne regarde pas un film seul, on n'est pas le seul devant son ordinateur sur Netflix. On est dans une salle, dans le noir, à 20, 30, 50, 100. Et après, on en parle. Et le fait d'en parler après, c'est cathartique. On crée du collectif. Et c'est ça, là, pour moi, la force du cinéma. Ça participe à la création d'un collectif.
Merci beaucoup, Alain Cassandra.
Merci à toi.
C'est vous qui le dites. C'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain, même heure, sur Radio U. Bonne soirée à toutes et à tous.